Silence.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Entre Deux Mers, 98.4 FM, www.re2m.com. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien. Comment vas-tu de ce temps-là?
Ça va très bien et toi?
T'es pas mouillé un peu quand même?
Ah non, là ça fait quand même du bien là, ce soleil. Il fait froid, mais il fait beau.
Qui ne va pas durer comme tu le sais. Mes chéris, bonjour, bonjour, merci de nous recevoir chez vous. Pour cette conversation autour du cinéma. Eh bien, on va commencer, par un film d'animation, oui. Animation britannique. Ça s'appelle Zébulon le dragon. Alors, c'est tout chou. C'est tout chou, tout chou. D'ailleurs, c'est ce que j'avais noté sur ma fiche. Tout chou. C'est un film de Max Lang, qui est un réalisateur, scénariste, adaptateur britannique. Il a quand même eu un Oscar pour un court-métrage, il a eu des nominations, il a eu des prix. Bref, comme je dis d'habitude, ce monsieur connaît bien son travail, son boulot. C'est sûr, il fait des choses très très jolies, c'est vraiment mimi comme tout, Zébulon le dragon. Zébulon, c'est un jeune dragon justement, comme l'indique le titre. Il est aussi attachant que maladroit et il aspire à devenir le meilleur élève de son école. Ouh, si tous les enfants voulaient devenir les meilleurs élèves de leur école, comme les parents seraient contents, n'est-ce pas? Donc voilà, il aspire à ça. Pour y arriver, qu'est-ce qu'il va faire? Il devra montrer une grande ténacité et traverser beaucoup d'épreuves, comme réussir à capturer une princesse. Oui, ça, c'est déjà plus délicat pour nos petits élèves, capturer une princesse. C'est pas facile. Est-ce qu'il en reste des princesses, d'ailleurs? On ne sait plus. Hein. Des vraies, hein, c'est pas sûr. Donc, voilà notre Zébulon. Alors, c'est noté, quoi. Découvrez le plus maladroit des dragons et une princesse pas comme les autres. Oh, mais je sais pas, on avait une bande-annonce peut-être?
On a une bande-annonce, oh, oui, merci. Que l'on va écouter.
Oui, merci Damien.
Madame Dragon tenait l'école avec passion. Elle enseignait aux plus jeunes des enfants dragons toutes choses utiles à une vie de dragon.
Maintenant que l'on vous a montré, c'est à vous de vous entraîner.
Zébulon mettait tout son cœur, faisait de gros efforts afin de gagner l'étoile d'or.
Veux-tu une pastille de menthe? Ça adoucit la gorge et rafraîchit la laine. Je ne veux pas être princesse, mener une vie de tralala.
Voilà donc Zébulon le dragon.
C'est adorable en fait, hein, c'est complètement... En fait, il a, ce monsieur là, Max Lang, il avait eu un prix aussi pour le Gruffalo. Le Gruffalo, moi je me souviens, hein, qui était sorti en 2009, je me souviens de l'avoir vu, ce petit truc. D'ailleurs, à la Réole, chez notre partenaire, le cinéma.
Le Rex.
Ouais. Donc je l'avais vu, effectivement, il y avait beaucoup d'enfants. Je me demande si ce n'était pas un ciné-goûté d'ailleurs, Gruffalo. Et il avait eu le prix des jeunes scolaires quand même. Hein. Donc voilà, Zébulon le dragon, bah, si vous voulez savoir comment on peut devenir le meilleur élève de son école, bah, écoutez, mes chéris, il faut emmener vos enfants, vos petits-enfants, et puis comme ça, vous découvrirez plutôt comment on peut devenir le premier de la classe. Mais oui!
Donc, Zébulon le dragon.
Zébulon le dragon.
Et nous continuons avec un film de saison, on va dire.
Oui, 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 tout à fait. Ça s'appelle Last Christmas, le dernier Noël. Eh ben oui, c'est pas fait exprès, c'est comme ça. Mais eux, à mon avis, eux, ils l'ont fait exprès quand même. Les distributeurs, à mon avis, bon, hein, ils ont dû quand même y penser un peu.
Oui, tu sors pas un film sur Noël au mois de juillet.
Voilà, exactement, exactement, Damien. C'est une comédie, une romance. C'est britannique, c'est américain. Au fait, pour Zébulon, j'ai pas dit que ça durait 0h40 quand même. Hein. Les gens aiment bien savoir, nos auditeurs aiment bien savoir combien de temps ça dure. Donc, Last Christmas. Alors, on revient là-dessus. C'est un auteur, acteur, réalisateur, producteur américain, Paul Feig. Il a 57 ans. Il a déjà eu 2 prix et 6 nominations dans sa carrière. Alors, c'est quoi ça, Last Christmas? C'est l'histoire de Kate, qui traîne derrière une série de mauvaises décisions, qui erre dans Londres au son des grelots accrochés à ses bottes de lutin. Youpi, on sait qui est Kate maintenant. Bah, à lutin. Le seul emploi d'ailleurs qu'elle a réussi à décrocher dans une boutique de Noël. Bon, elle a décroché un emploi de lutin, elle est donc déguisée en lutin et elle erre dans les rues de Londres. Alors, c'est pourquoi elle n'en croit pas ses yeux, notre Kate, quand elle rencontre Tom, qui semble voir en elle bien plus que ce qu'elle laisse paraître. Bien plus, c'est pas facile à dire là, hein, bien plus que ce qu'elle laisse paraître. Oui. Alors que la ville se pare de ses plus beaux atours pour les fêtes de fin d'année, rien ne semblait les prédisposer à nouer une relation. Mais parfois, il suffit de laisser opérer la magie de Noël, d'ouvrir son cœur et d'y croire. On va mettre des points de suspension, là. Donc on a dans les rôles principaux, on a Emilia Clarke, Henry Golding, Michael Yeo, Emma Thompson. On la connaît, Emma Thompson. Grande actrice, grande comédienne. Donc c'est une, en fait, Last Christmas, c'est une comédie romantique parce que, en fait, elle est basée sur la chanson Last Christmas. Alors Last Christmas, c'est une chanson de George Michael. Je ne sais pas si tu la connais, toi, Damien. Je crois que je l'ai déjà entendue, moi, cette chanson.
Oui, on l'a forcément entendue.
Last Christmas, bah oui, de George Michael, oui. Donc voilà, et là, du coup, ils ont décidé, enfin le producteur et le réalisateur ont décidé donc de mettre cette chanson en film, on peut dire ça comme ça, sous réserve, attention, qu'Emma Thompson soit impliquée. Il la voulait absolument. Ah oui, ça, bon, hein, c'est pour la petite histoire. Alors elle en a parlé autour d'elle, elle a réfléchi et finalement elle a dit oui. Et oui, voilà, c'est quand même... Alors, c'est Paul Feig, là, le réalisateur, il ne voulait plus réaliser des films sur Noël. Hein. Il ne voulait plus, lui. Voilà, il avait déjà mis en scène une comédie familiale qui parlait de Noël. Voilà. Mais quand il a lu le scénario, alors là, il a dit, bah, bingo, ouais, c'est pour moi. Je réalise ce film. Il a bien fait. Ça donne quelque chose de vraiment très chouette. Alors, le film a été intégralement tourné au Royaume-Uni, notamment dans plusieurs lieux emblématiques de Londres. Alors, par exemple, le premier coup de manivelle a été donné à Covent Garden. C'était le 3 décembre 2018, hein, ça. C'est face à la devanture du magasin de Noël hein, de Santa. Oui, il faut savoir qu'à Covent Garden, il y a un grand, grand magasin, justement, qui offre des vitrines extraordinaires au moment de Noël. Donc là, évidemment, pour un premier coup de manivelle devant cette devanture, c'était quand même assez magique. Ensuite, ils ont tourné devant l'église Sainte-Marie aussi, qui a servi de doublure pour les extérieurs du foyer Saint-Jude et pour la scène finale de concert. Voilà, cette église Sainte-Marie. Et puis il y a aussi une scène très importante qui a été filmée au Savoy Theatre, qui est situé sur le Strand. C'est un théâtre très, très important, effectivement, qui est très, très fréquenté. Le Savoy Theatre, et voilà, c'est là qu'il y a eu la désastreuse scène d'audition de Kate, qui est habillée en elfe et qui a été filmé justement à ce moment-là. Moi, c'est pas mal de savoir si on connaît un peu. Je ne sais pas si les gens connaissent un petit peu Londres, nos éditeurs. Peut-être, il y en a peut-être qui sont allés à Londres. Hein. Toi, tu connais, Damien, un peu Londres ?
Pas trop, non. J'y suis passé vite fait quand j'étais en quatrième, mais d'accord. Pas plus.
Non, c'est-à-dire que moi, ça m'intéressait parce que je reconnais que j'y suis allée souvent. Parce que j'ai des amis là-bas. Donc, effectivement, quand on va chez des gens, quand on n'a pas besoin d'aller à l'hôtel et tout, c'est facile. Hein. On prend l'avion, vite fait, on arrive, ils viennent nous chercher, et puis voilà. C'est vrai que j'en ai profité pas mal grâce à ces amis, là, justement. Donc, je connais bien et ça m'a fait plaisir de décortiquer un petit peu le tournage par rapport aux endroits comme ça qui sont très connus, très chouettes aussi. Voilà, donc c'est le film en fait ressortir le côté enchanteur et intime de Londres. C'était ça qui était voulu. C'est pour ça que le réalisateur a choisi ces coins là, qui sont quand même des coins qui font rêver. Surtout à la période de Noël justement. Il y a aussi la patinoire. Ouais, ils sont allés aussi. Il y a eu le tournage La Reine des Neiges sur glace, hein, justement, qui se fait dans cette patinoire. C'est l'Alexandra Palace aussi. Les Londoniens la fréquentent beaucoup, donc il y a eu aussi des scènes tournées là. Là, c'était juste pour la petite histoire et pour ceux peut-être qui connaissent un peu Londres quand même. Hein. Et j'ai dit qu'il y avait une bande-annonce, peut-être, je ne sais pas, je demande à Damien.
Oui, il y a une bande-annonce.
Merci, Damien. 1h43 le film.
Le Noël dernier, j'ai été très malade et j'ai failli mourir. J'en parle pas parce que ça met les gens mal à l'aise. I'll give it to someone special. Mais toi, je sais que ça ne tiendra pas.
Maman ?
Pas d'appel, pas de Twitter.
Oui, allez, je sais.
Tu as le téléphone,
oui,
tu peux appeler ta mère. Je suis inquiète pour toi.
Parlez-moi de votre alimentation.
Elle mange des cochonneries.
De l'exercice ?
Religieux.
Rien du tout. De l'alcool ?
Une fois
de
temps en temps.
Elle boit comme le pirate.
Un godet ?
Salut Gina, c'est moi. J'ai vraiment besoin d'un lit pour ce soir. C'est juste...
Lutin, c'est ma petite assistante. Je l'ai surnommée le lutin paresseux parce qu'elle ne donne pas l'impression de travailler.
C'est moi.
Je pourrais aussi l'appeler le lutin terriblement décevant.
Qu'est-ce que tu regardes ?
C'est rare de voir un oiseau comme ça en ville.
Merde.
Ça porte bonheur.
Mon cul, oui. Oh, yeah.
Tu gâches ta vie en travaillant dans une boutique de Noël.
Oui, mais c'est pas mon métier, je suis pas lutin professionnel. Ça fait partie de mon plan pour devenir une chanteuse célèbre.
Last Christmas gave you my...
Fantastique, fantastique. Oh, pardon. Non, non, c'était à chier.
Oh, toi encore?
Je suis Tom.
Tu m'as suivi?
Les lutins sont toujours aussi cyniques?
Oui, tout le temps. C'est une sale période.
Viens avec moi alors.
On t'a jamais dit que t'avais un petit côté serial killer?
Non, pas plus d'une fois en tout cas. J'ai bien aimé notre balade.
Idem.
Votre suite, madame.
Ta-da! Je sens que je vais avoir une vie sexuelle de folie.
Depuis que tu es revenue au magasin, on a l'impression que tu te fiches de tout.
Je suis en vrac. Quand j'étais malade, c'était comme si j'avais perdu quelque chose de spécial. Avant, je chantais. J'avais des rêves plein la tête. Maintenant, j'ai tout le temps peur.
C'est rien, c'est normal.
Pourquoi moi ?
C'était écrit comme ça.
Nous avons beaucoup de chance d'être en vie.
Lui, il me plaît.
Et maintenant ?
Comment ça a été ?
Atroce, elle m'a chanté une berceuse.
T'es la seule personne qui fait passer une gentille berceuse pour de la torture.
Voilà donc Last Christmas.
C'est chouette comme pour se faire un petit cadeau dans un cinéma à proximité là pour la période de Noël. Ouais. Je pense que c'est bien.
C'est un conte de Noël quoi.
C'est sympathique. Au fait, est-ce qu'on a dit au début que la semaine dernière donc j'avais pas pu venir puisque j'avais une grosse angine et que je pouvais plus parler, mais que ça ce sont les films qui sont sortis le 27 hein.
D'accord. Donc ils sont
le 27
déjà au
novembre
cinéma.
Au fait. Voilà. Donc ils sont déjà sortis. Mais comme j'avais pas pu venir, mes chéris, et que moi, je veux quand même que vous entendiez parler de certains films et voir après quelle décision vous prenez, donc je voulais quand même vous en parler. Voilà. Donc je crois qu'on l'avait pas dit, hein, il me semble, hein, que c'était ceux du 27. Donc ils sont largement encore dans les cinémas. Ensuite, on va changer un petit peu de genre. On passe dans le drame, le thriller, l'action. C'est français, c'est allemand. Ça s'appelle Proxima. Proxima, c'est de la réalisatrice Alice Winocourt. Alice Winocourt, elle est réalisatrice, elle est scénariste, elle est collaboratrice au scénario. C'est-à-dire, elle collabore au scénario quand elle est sur un tournage. Elle est française, elle a 43 ans. Elle a déjà eu quand même 3 prix et 24 nominations. C'est un très, très beau film. Vraiment très, très beau. C'est l'histoire de Sarah, qui est une astronaute française qui s'apprête à quitter la Terre pour une mission d'un an, Proxima. Alors qu'elle suit l'entraînement rigoureux imposé aux astronautes, seule femme au milieu d'hommes, elle se prépare surtout à la séparation avec sa fille de 8 ans. Alors sa fille de 8 ans, c'est Stella, d'ailleurs elle s'appelle Stella, sa fille, avec qui elle vit seule et qu'elle couve d'un amour inquiet, se sentant coupable de ne pas pouvoir lui consacrer plus de temps. C'est ça. Et alors on a dans les rôles principaux, on a Eva Green. Alors Eva Green, c'est elle, c'est Sarah, c'est l'astronaute.
C'est la fille de Catherine Joubert.
Non, de Marlène aussi.
Marlène Joubert.
Il y a peut-être une Catherine, hein, mais il y a surtout une Marlène qu'on connaît bien.
Marlène Joubert.
Qu'on a beaucoup aimée quand elle tournait énormément et que c'était une excellente comédienne. Et ben sa fille non moins excellente, en plus elle est absolument ravissante. Eva Green, on a déjà parlé d'elle dans certains films. Hein, ici à l'antenne. Donc voilà, elle est, oui, Marlène, oui. Elle est, d'ailleurs, son papa, c'est un chirurgien dentiste suédois que Marlène Joubert avait épousé il y a très longtemps. C'est un bon couple, ils sont toujours ensemble, ce qui est quand même assez rare. Ça, c'était pour la petite histoire. Ensuite, on a Madillon dans les rôles principaux, Sandra Euler, Lars and Heidinger. Alors Lars Heidinger et Sandra Müller sont des acteurs allemands, parce que j'ai dit que le film était français et allemand, hein. Donc ce sont deux acteurs très connus chez eux, allemands, qui sont excellents. Et puis Stella, la petite fille Stella, c'est Zélie Boulan-Lemel qui joue le rôle et qui est absolument adorable. Et c'est vraiment un très, très beau film qui dure 1h47. C'est mon petit coup de cœur quand même, hein, franchement, là. Ah oui, c'est très, très beau. Ah là, mes chéris, franchement, s'il y a des mamans, là, qui ont aussi une fille comme ça, qui ont un métier qui les éloigne des fois, par exemple, être infirmière ou être soignante, et tout comme ça, ou ça, c'est des métiers qui prennent beaucoup de temps et qui les éloignent de leur enfant ou de leurs enfants. Ben, vous verrez un peu ce que ça donne, effectivement, quand une maman culpabilise et qu'elle est triste et qu'elle doit partir longtemps et quitter sa petite fille. Ça donne une petite idée, surtout que Eva Green, là-dedans, est quand même extraordinaire. Proxima. Voilà, Proxima. Très beau. Ensuite, c'est un drame judiciaire. Oui, on peut appeler ça comme ça. Drame judiciaire français. Ça s'appelle Chanson douce, ne pas se fier au titre. Hein. Eh bien oui, Chanson douce, c'est l'histoire de Paul et Myriam, qui ont 2 enfants en bas âge. Ils engagent Louise, une nounou expérimentée, pour que Myriam puisse reprendre son travail. Louise se montre dévouée, consciencieuse, volontaire, au point que sa présence occupe une place centrale dans la famille. Mais très vite, les réactions de Louise deviennent inquiétantes. Oh oui, ô combien inquiétante, oui. C'est un film de Lucie Borletteau, qui est une actrice, réalisatrice, scénariste française. Elle a déjà eu des nominations, elle a 39 ans. Chouette alors, elle va encore pouvoir nous réaliser beaucoup de films, je pense, parce que c'est très beau ce qu'elle fait. Alors, dans les rôles principaux, on a des gens qu'on connaît absolument, Karine Viard, qui a le rôle de la nounou d'ailleurs. Et franchement, Karine Viard, elle fiche la trouille.
Ouais, elle fait peur. Hein.
Elle fiche la trouille de temps en temps dans ce rôle de nounou. C'est un rôle à contre-emploi d'ailleurs, parce que Karine Viard, c'est pas quelqu'un qui fiche la trouille en temps normal. Hein. Elle est pleine de talent, elle est jolie comme tout. Mais là, franchement, il y a des moments, je me disais, jamais je lui confierai un enfant. Jamais. Ensuite, on a Leïla Bekhti. Pareil, c'est bon, bah, elle, c'est Myriam, c'est la maman. Excellente comédienne, bien sûr. Et puis, on a Antoine Reynard, lui, c'est Paul, c'est le papa. On a Assia Da Silva aussi dans les rôles principaux, voilà. C'est d'après, en fait, le roman de Leïla Slimani, qui est quand même le prix Goncourt 2016. Hein. Ce roman, si vous le voulez, ça s'appelle donc Chanson douce. Sorti en 2016, il est en vente dans toutes les librairies. Je ne fais pas de pub pour les librairies, mais bon, le livre est très intéressant. Et le film respecte absolument l'histoire qu'on peut lire dans le livre. Alors, Chanson douce, en fait, c'est un fait divers absolument terrible. Qui a inspiré d'ailleurs le roman, justement, qui remonte à 2012. À Manhattan, on a deux enfants ont été retrouvés morts, poignardés par leur nourrice, qui s'appelait Yoslin Ortega, d'ailleurs. Ensuite, elle a tenté, elle, la nourrice, de se tuer en se tranchant la gorge, mais elle a survécu. Elle a été condamnée à la peine maximale, prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Alors son mobile, ben on ne sait pas, son mobile reste très flou, même si la folie et les tensions avec les parents ont été évoquées au procès. C'est terrible, c'est un fait divers épouvantable. Alors évidemment, ce qui a intéressé la réalisatrice dans le roman, c'est que Leïla Slimani, la romancière, ne condamne pas plus la criminelle que les parents. C'est pas un livre pour juger, hein, c'est pas du tout ça. Elle précise, Lucie Borletot, la réalisatrice, j'y ai donc vu une peinture très cruelle de la société actuelle qui dévore ses propres enfants. Le roman pose cette question. Comment se fait-il qu'un tel crime soit rendu possible dans notre société? Le monstre n'est pas Louise et sa folie, mais une chose au contour flou qui nous renvoie à nos propres actes. J'ai été marquée, dit-elle, par le caractère très réaliste, la précision quasi documentaire de cette histoire et parce qu'il a relié au conte dans le même temps avec sa part atroce. J'ai aimé qu'aucune morale ne s'en dégage. C'est pas un film à charge, hein. Le roman non plus d'ailleurs. Donc elle a bien suivi ce roman. Alors, évidemment, le désordre qu'on voit dans l'appartement de Louise a été inspiré par le documentaire, justement. Et ça a inspiré la réalisatrice à la recherche du... elle a cherché à donner le sentiment... C'est pas une recherche, elle a cherché à donner le sentiment d'une accumulation, comme les traces d'une époque où l'espace vital du personnage était plus grand. Elle nous dit, j'aime aussi l'idée que son intérieur contraste avec l'image rangée qu'elle donne d'elle. Et oui, c'est... Ben Louise, en fait, il y a quelque chose de très noir chez elle. Elle est un mystère. Voilà, c'est ça. Et donc, Assia Da Silva, j'ai donné son nom, l'actrice, là, c'est elle qui joue la petite fille. Donc, la réalisatrice l'a trouvée très vite. Elle dit, il y avait chez elle, nous dit-elle, quelque chose de brut et d'imprévisible. Elle avait très envie de jouer. Quand elle était bonne, quand elle faisait les choses correctement, elle le sentait, ça lui faisait de l'effet. Et puis, elle a une écoute exceptionnelle, donc face à de bons acteurs, elle devient meilleure. Le bébé le plus petit est le mien. Hein, c'est celui de la réalisatrice dans le film. Donc c'était très pratique car je connaissais ses réactions. Pour le bébé un peu plus grand, nous avons choisi des jumeaux dont je connaissais la maman. Nous avons tout fait pour que l'expérience ne soit pas traumatisante pour les enfants. Alors évidemment, Karine Viard, elle a... d'habitude, on la voit plutôt dans des comédies. Karine Viard dans des choses. Alors, Chanson douce lui permet de s'aventurer dans le drame comme elle l'avait fait avec Les Chatouilles. Les Chatouilles, le fameux film Les Chatouilles dont on avait parlé ici, justement, hein, Radio Entre-deux-Mers, ici, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, puisque il est sorti, c'était le mois dernier, je crois, qu'il est sorti Les Chatouilles.
Non, ça devait être l'année dernière.
Ah bon, c'était en 2018?
Oui, oui. Ah, je pense, oui.
Damien, je ne vieillis pas, moi, tu vois, je ne vois pas le temps passer. Je serai toujours jeune, je suis désolée de te le dire.
D'Éric Métayer, avec
sa
compagne également.
Oui, alors elle jouait le rôle de la maman, de la mère égoïste et odieuse dans le film Les Chatouilles. Ah ouais, c'est terrible, hein, c'est les attouchements, hein, c'est l'histoire d'un monsieur, voilà, c'était les attouchements sur une enfant, sur l'enfant de Karine Viard qui jouait la maman. Enfin, Alors, la comédienne nous dit « Je suis toujours étonnée par l'image de femme sympathique qu'on me renvoie souvent. Je ne suis surtout pas pourtant dans la séduction. Je me moque de ce qu'on pense de moi et je suis assez libre. Ce qui est sûr, c'est que Louise est un personnage très différent de ce que j'ai déjà pu jouer. » On m'a beaucoup envisagée dans des rôles de femme joviale et truculente. Là, j'incarne un personnage plus complexe, âpre, noir, dingue et violent. Et cela est inédit pour moi. J'adore mettre les pieds sur des terrains nouveaux. Ben oui, c'est le charme d'être comédien, ça. Hein, c'est de pouvoir, de temps en temps, remplir des rôles de contre-emploi, justement, des rôles auxquels on n'est pas habitué. Je pense que ça doit être un vrai plaisir, en réalité. Voilà, ma foi, ben c'est tout. Elle a voulu... Ah oui, alors, la réalisatrice a voulu que la scène de meurtre des enfants intervienne à la fin du film, et non pas au début. Parce que dans le roman, c'est au début que les enfants sont...
Donc là, tu viens de dévoiler la fin du film. Ouais. Voilà, on écoute la bande-annonce, alors.
Non, mais... J'ai pas dit comment ça se passait.
J'ai tout.
Merci pour la bande-annonce.
Je cherche une nounou. Alors, moi, je m'appelle Louise. Excusez-moi, mais je crois que quelqu'un est en train de se réveiller.
Oh, vous avez Louis-Fine.
Oui.
Ouais, j'y vais.
Myriam, vous pouvez partir tranquille.
Bisous, mes chéris.
À votre formidable famille.
Elle est super, votre nounou.
On voit qu'elle aime vos enfants.
Louise ?
Vous venez de plus en plus tôt.
Louise ?
Oui, je dors très peu.
Louise !
Mila ! Mila ! Hé ! Oh, ma petite !
Tu ne t'éloignes plus jamais comme ça, c'est compris ? Tu veux que quelqu'un te vole ? Tu sais ce qu'un homme pourrait te faire ? Eh bien, il t'emmènera. Il te gardera pour lui tout seul. Et tu auras beau crier et pleurer, personne ne viendra te chercher.
Je m'inquiète pour Mila, elle passe plus de temps avec elle qu'avec nous. Je pense qu'il est temps qu'on s'en sépare.
Puis j'ai plus envie de m'occuper de quelqu'un d'autre, à part des enfants, hein.
Et tu vas faire comment quand ils seront plus là?
Ils seront toujours là. Ils ont confiance. Ils savent.
Voilà donc Chanson douce, qui est également sortie depuis la semaine dernière.
Eh oui, c'est terrible. Hein. Écoutez, mes chéris, si vous avez une nourrice qui garde vos enfants, attendez d'aller voir le film. Vous le verrez l'année prochaine ou plus
tard. Les enfants seront grands.
Oui, quand les enfants seront grands, vous achetez le DVD que vous mettez de côté. Un jour, vous regarderez le film. Par contre, pour les autres, ceux qui n'ont pas de nourrice et pas d'enfants en bas âge, allez le voir parce que c'est vraiment bien fait. Et si vous aimez Karine Viard, un régal. Parce que là, franchement, ouh! Elle joue, ben, comme c'est une grande actrice, on y croit. C'est ça, le truc, quoi. Elle fiche la trouille parce qu'on croit à ce qu'elle fait, tout simplement. Bien, alors ensuite, j'ai un drame australien, j'allais dire australien. Non, c'est australien carrément, ça s'appelle Freedom. Freedom, ça veut dire liberté. Alors, c'est interdit au moins de 12 ans. Ça, je le dis tout de suite, hein, important quand même. Ça se passe dans la campagne cambodgienne. Chakra, garçon vif de 14 ans, travaille dans la rizière avec sa famille. Aspirant à plus d'indépendance, il sollicite un passeur pour trouver un emploi rémunéré dans une usine en Thaïlande. Sans rien dire à ses proches, il se rend à Bangkok dans l'espoir de mieux gagner sa vie. En arrivant sur place, Chakra et son nouvel ami Kea, âgé d'une trentaine d'années, découvrent que l'intermédiaire leur a menti. Comme d'autres Cambodgiens et Birmans, ils sont vendus comme esclaves à un capitaine de chalutier. Alors, il est superbe ce film, mais il est terrible. Mais il est superbe quand même. Hein. C'est pour ça que je voulais absolument en parler. C'est de Rod Radchen. Rod Radchen, c'est un Australien de 38 ans, réalisateur, scénariste. C'est son premier long métrage parce qu'il a réalisé beaucoup de courts métrages. Il a eu 2 prix d'ailleurs pour des nominations pour des courts métrages. Premier long métrage très réussi, à mon sens. Hein. Vraiment. C'est titré d'ailleurs un des meilleurs premiers films de ces dernières années. À la fois un thriller, un drame documentaire et une œuvre d'art contemplative. C'est impressionnant. Par moments, c'est glaçant. Ça, c'est titré comme ça. Hein. Alors, dans les rôles principaux, on a Sarn Heng, qui est un acteur cambodgien qui est extraordinaire. Mais vraiment, extraordinaire. Un grand acteur. On a Thanawut Khasro, qui est un acteur thaïlandais. On a Moni Ross aussi, qui est un acteur cambodgien. Bon, ils sont tous formidables en réalité. Hein. C'est vraiment... c'est mon deuxième coup de cœur, à vrai dire, hein, par rapport à ce qu'il représente et la façon dont il a été tourné, son scénario. Enfin, tout est quand même... tout est réussi dans ce film. Hein. C'est sûr que là... Alors, je me disais, en fait, Freedom, le titre du film, c'est Freedom, hein, Liberté, s'appuie sur les codes du thriller social. C'est une histoire d'une belle simplicité où le suspense est distillé progressivement. Le film tire sa substance d'authentiques témoignages de victimes de l'esclavage moderne. Certaines d'entre elles, d'ailleurs ces personnes-là, qui ont témoigné, ont été retenues pendant des années à bord de bateaux sur la mer de Chine méridionale et s'en sont sorties malgré leurs faibles chances de survie. Non mais c'est effarant. C'est pour ça, c'est quand c'est... Le journaliste qui a titré glaçant, effarant, c'est tout à fait ça. Hein. Alors, il faut savoir que c'est une situation répandue dans l'industrie thaïlandaise de la pêche qui engrange des milliards de dollars grâce à la vente de poissons dans le monde entier. Alors, le réalisateur se souvient, j'ai eu l'idée de Freedom quand je suis tombée il y a quelques années sur un article qui parlait de l'esclavage moderne et de l'exploitation humaine dans l'industrie de la pêche thaïlandaise. J'avais du mal à croire qu'une telle barbarie était possible. J'ai commencé à entreprendre de nouvelles recherches et à échafauder un récit sur cet univers. Je me suis dit qu'un film serait un bon moyen de sensibiliser le grand public à cette question. Moi, je pense que quand on voit ce film, quand on l'a vu, on ne peut pas oublier. On est pratiquement obligé de se souvenir de ces gens-là. Le film est tourné d'une telle façon qu'il est certain qu'on ne peut pas oublier. Et il faudrait, évidemment, il faudrait que là-haut, tout là-haut, là, les instances agissent quand même, fassent quelque chose. Quoi. C'est terrible, c'est terrifiant. Hein. C'est épouvantable. Donc c'est vraiment... voilà.
Ça s'appelle ?
Ça s'appelle Freedom.
Freedom, et ça vient de sortir.
Oui, et ça vient de sortir. Et vraiment, ça vaut la peine, mes chéris, ça vaut la peine. Mais sachez que vous n'oublierez pas après, hein. C'est ce que je viens de dire. Hein. Vous n'oublierez pas. Une fois que vous aurez vu ce qu'est l'esclavage moderne sur les bateaux thaïlandais...
Oui, ça se passe aujourd'hui.
Ça se passe... Ah oui, 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 ça, ben, c'est actuel. Hein. C'était pas au XVIe siècle ni au XVIIIe siècle. Hein. Non, non, c'est au XXIe siècle. C'est terrible, horrible. Ça dure 1h45. Ensuite, j'ai une comédie dramatique française, très chouette aussi. Décidément, pour ce 27, là, quand même, il y a de beaux lots. Il y a de beaux lots de films. Ça s'appelle « Toute ressemblance ». C'est l'histoire... Alors, c'est depuis son arrivée fracassante à la tête du 20h, Cédric Saint-Gérande, dit CSG, on l'appelle CSG, est le présentateur préféré des Français. Ses audiences insolentes attisent les jalousies même au sein de la grande chaîne dont il est la star incontestée. Sa soif de pouvoir est sans limite, ce qui déplaît au nouveau président de la chaîne. Et oui, la guerre est déclarée entre les deux hommes pour le plus grand plaisir de CSG. Jeu de pouvoir, manipulation et coup bas. La lutte sera sans merci et l'issue forcément spectaculaire. Bienvenue dans les jeux du cirque médiatique. Point d'exclamation. C'est un film de Michel Denisot. On le connaît, Michel.
Alors ça, c'est original. C'est son premier film, non?
Ah oui. Alors là, lui, voilà.
On va dire qu'il connaît le milieu de la présentation et de la télé.
Ah ben.
Donc il sait de quoi il parle.
Ah, ça, c'est clair. Alors lui, il y est depuis quand même longtemps. Il a 74 ans. Il doit y être quand même depuis plus de 40 ans, je pense. Il doit bien connaître. Il est donc auteur, dialoguiste, réalisateur, acteur, voilà. Et il est. Alors c'est titré « Entrer dans un monde où tout est permis ». Alors dans les rôles principaux, on a Franck Dubosc. Alors c'est lui le fameux CSG, c'est lui, Cédric Saint-Gérande. Eh oui, on a Jérôme Commandeur, on les connaît tous en fait, hein. Caterina Murino, Sylvie Testu, Denis Podalydès, Laurent Bateau, Marilyn Canto, Jeanne Bourneau, Alain Delon qui se joue lui-même, hein. Il joue son personnage, Patrick Poivre d'Arvor qui se joue lui-même, eh oui, Anne-Sophie Lapix qui se joue elle-même. On a également, alors dans les acteurs par contre, on a Michel Drucker. Lui, il se joue pas lui-même, il a un rôle. On a Joe Star également, voilà. Donc des gens évidemment qu'on connaît tout à fait, qui sont dans ce film, qui ont dû prendre un grand plaisir d'ailleurs à mon avis à tourner dans ce genre de réalisation. Alors Michel Denisot, en fait, il a travaillé avec la scénariste Karine Angeli. Je la nomme parce que c'est la scénariste d'Un gars, une fille, qu'on a vu longtemps à la télévision, et de Brice de Nice. C'est elle, la scénariste.
Brice de Nice.
Bah oui, Brice de Nice, je sais. Ouais. Moi, je l'ai dit vraiment à la française complète. Brice de Nice, je sais qu'on dit comme ça. Oui. Il y en a eu deux, je crois, d'ailleurs. Eh bien, c'est elle, la
scénariste. Non, il y a eu le 1 et le 3, parce que le 2, il était cassé.
Ah oui. Excellent, excellent, Damien. Mes chéris, vous avez bien compris l'astuce, n'est-ce pas? Ouh, Damien a de l'humour, vous savez. Donc, c'est elle, la scénariste. Il l'a choisie, il a bien fait, je pense, pour faire ce qu'il voulait faire. Alors, en fait, il y avait un risque quand même, c'est ce qu'il nous dit, Michel Denisot. Le risque était de faire une succession d'anecdotes et nous voulions une vraie histoire. Pour vous dire ma naïveté, ajoute-t-il, je croyais quand on a rendu la première version du script que ça serait fini. Mais en fait, pas du tout. Les rythmes et exigences des producteurs de cinéma n'ont rien à voir avec la production d'émissions télé. Voilà ce qu'il nous a confié, le metteur en scène. Alors donc, Cédric Saint-Gérande, alors Saint-Guérande, pardon, pourquoi j'ai dit Gérande? Non, c'est Cédric Saint-Guérande, oui. Égal Michel Denisot? Est-ce que c'est lui? On s'est posé la question. Alors, il est joué donc par Franck Dubosc, c'est ce que j'ai dit. C'est un personnage en fait très éloigné de Michel Denisot dans la réalité. Ce dernier, il nous explique d'ailleurs, ce dernier explique, en télévision, toute modestie mise à part. Et j'ajoute toujours ce qui est difficile pour moi, j'ai à peu près tout fait, sauf le 20h. De plus, ma vie familiale n'a rien à voir, mais vraiment rien, avec celle de Cédric Saint-Guérande. Je n'ai pas de point commun avec ce personnage, nous dit-il. En revanche, des CSG, hein, des Cédric Saint-Guérande, j'en ai vu beaucoup. Et des coups bas professionnels comme celui de la première scène aussi. Le 11 septembre 2001 à 14h15, le joker du JT ne prévient pas le présentateur officiel et prend l'antenne à sa place. Par exemple, c'est un exemple parmi d'autres. Mais j'allais le dire quand j'ai parlé du résumé, là, quand je vous ai donné le résumé, mes chéris, j'allais le dire. Je crois qu'il y a énormément d'exemples et que le Cédric Saint-Guérande, il est à 50 000 exemplaires. C'est ce qu'on pense tous d'ailleurs, je crois, hein, quand même. Alors il y avait, bah, j'ai nommé hein, les guest stars du film, PPDA, Claire Chazal, Michel Drucker, Joe Star, Béatrice Dalle, Sophie Morouzi, c'est la fille d'Yves Morouzi au fait, hein, Sophie Morouzi, Laurent Delahousse, Nikos Aliagas, ou encore Mouloud Achour, voilà tous ces gens qu'on va voir justement qui arrivent en guest là. Hein, dans le film. Et c'est bon, voilà. Et alors Franck Dubosc, lui, il nous dit que pour entrer dans son rôle, il a beaucoup observé. Alors attention, Laurent Delahousse. Ben oui, parce qu'il a le sentiment qu'il est le présentateur de JT qui montre le plus qui il est vraiment à l'antenne. Si CSG est un homme dur, manipulateur, ambitieux, menteur, les spectateurs auront, enfin, on pense que les spectateurs auront la possibilité de juger sur place, quoi, hein, de voir un peu cette comparaison avec Laurent Delahousse. Bon, moi, j'ai pas d'opinion, et toi, Damien?
Je connais très peu Laurent Delahousse.
Mais oui, moi aussi. Moi non plus, j'avoue que je suis pas, c'est pas quelqu'un que je connais beaucoup. Mais bon, c'est vrai que... Alors, Franck Dubosc nous dit aussi que la démarche d'apprivoisement est déjà faite en quelque sorte. Je crois aussi que si on a envie de l'aider, c'est qu'il est très bien entouré, sa femme, son fils, sa gardienne, son assistant. Ce sont des gens bien et on se dit que s'il l'aime tant, c'est qu'il en vaut la peine. Ça, c'est Dubosc qui nous dit ça. Au début, il semble très fort. Il parle de son personnage, bien sûr. Il semble très fort, on a plutôt tendance à admirer qu'à détester quelqu'un qui réussit si bien. Et lorsqu'il commence à sombrer, on a envie de l'aider. C'est dur de voir une idole tomber. On a tous en nous quelque chose du personnage de Sylvie Testu qui veut pouvoir continuer à aimer sa star. Mais écoutez, mes chéris, vous pourrez juger, quand vous irez voir ce film, quand vous l'aurez vu, vous pourrez juger de la pertinence des propos de Franck Dubosc et de Michel Denisot.
Et on va écouter la bande-annonce de Toute ressemblance.
Merci Damien. Toute ressemblance, 1h23.
Mon paradis, c'est ça. Avoir tous vos yeux braqués sur moi tous les soirs.
Antenne dans 5, 4, 3, 2, 1.
Bonsoir à tous.
Bonsoir à toutes.
Bonsoir à tous. Oui, je suis le roi. Star du PAF, producteur. Je suis tout simplement indéboulonnable.
Je vous aime, tous.
Antenne dans 8 secondes.
Vous informer chaque soir est un immense honneur.
Non.
Et un plaisir aussi.
Les audiences de votre JT ne vous protégeront pas indéfiniment. Vous ne m'impressionnez pas, Saint-Guérand.
Ça viendra.
40% de part de marché hier soir.
Oh, danse de joie.
Yes. Trouvez-moi les failles de ce fils de pute.
Encore un ce matin.
Le coup du cercueil, quand même.
Et s'il y a une bombe dedans?
Vous regardez trop les infos. Qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive?
Je sais bien qu'il y en a encore qui vont dire que ça me ressemble, mais moi je dirais plutôt une femme.
Mais non, il n'y a qu'un homme qui peut se comporter comme ça. Et je crois que j'ai ma petite idée.
Toute ressemblance, donc.
Terrible les dialogues, hein, quand même. Ils sont assez, assez percutants. Oui, toute ressemblance, 1h23. Oh, mais chérie, si vous avez l'habitude de regarder la télévision et le 20h, précisément, ben, je pense que ça vous amusera d'aller voir ce film, puisque Franck Dubosc s'est basé quand même un peu sur le personnage de Laurent Delahousse. Donc, si vous avez, puis si vous aimez Franck Dubosc et tous ces acteurs là qui sont excellents, Sylvie Testu, etc., bah, allez voir ce film. Ça vous détendra de toute façon. Hein. Voilà, c'est une comédie dramatique. Hein. C'est pas, il y a pas de mort, il y a pas de violence spéciale. Bon, pour la période de Noël, c'est pas si mal. Bah ensuite, par contre, là, j'ai un drame historique. Je l'avais mis de côté, ça s'appelle L'Orphelinat, parce que je le trouve joli. Enfin, je trouve que c'est un joli film, oui. Et c'est une réalisatrice scénariste co-productrice afghane. Elle a eu déjà un prix et 6 nominations. Et son film, L'Orphelinat, a 4 nominations à la quinzaine des réalisateurs à Cannes 2019. Donc, elle avait été présentée, et là, ils ont aimé son film. Elle s'appelle Charbanu Sadat. Cette réalisatrice qui est, à mon avis, qui est assez extraordinaire. En tout cas, c'est très beau ce qu'elle fait. C'est l'histoire de Kabal. C'est Akabal, c'est pas un personnage, c'est une ville. Hein. C'est une, à la fin des années 80. Le jeune et débrouillard Kodra gagne sa vie en revendant des tickets pour aller voir ses films bollywoodiens. Ouais. Alors, ses films préférés, évidemment. Rattrapé par la police, il se retrouve à l'orphelinat où il s'imagine héros de Bollywood combattant aux côtés de ses nouveaux amis l'invasion rebelle les menaçant. Alors, le film est afghan, il est allemand, danois, français et luxembourgeois. tout le monde s'y est mis parce que cette réalisatrice est très connue dans le milieu des réalisateurs et qu'elle est très appréciée. Donc, ils ont voulu l'aider justement à réaliser ce film. Alors, dans les rôles principaux, on a des acteurs afghans. Moi, j'ai les noms des acteurs afghans, les premiers rôles. On a Kodratola Kadiri. C'est lui d'ailleurs, le jeune débrouillard Kodra, c'est lui. On a Sedika Razouli et Anwar Hashimi, voilà, dans les premiers rôles. C'est joli comme tout, l'orphelinat. Voilà, ça dure 1h30. J'avais envie de lui mettre un petit coup de cœur aussi, quand même, à celui-là, l'orphelinat. Ensuite, j'ai un drame français, très chouette également. Il y a de bons films pour cette semaine du 27. Là, il y a Gloria Mundi, c'est le titre, Gloria Mundi. Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années et il retourne à Marseille. Sylvie, son ex-femme, l'a prévenu qu'il était grand-père. Leur fille Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria. Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie. En venant à la rencontre du bébé, Daniel découvre une famille recomposée qui lutte par tous les moyens pour rester debout. Quand un coup du sort fait voler en éclats ce fragile équilibre, Daniel, qui n'a plus rien à perdre, va tout tenter pour les aider. Alors, quand vous saurez que c'est un film de Robert Guédiguian, grand, grand, grand réalisateur, scénariste, producteur français, 65 ans, il va encore nous faire beaucoup de jolis films. Il a quand même déjà, lui, 2 prix, 47 nominations. Il a 3 nominations pour Gloria Mundi. De toute façon, chaque fois que Robert Guédiguian sort un film, il a quelque chose. Il a soit des nominations, soit un prix, parce que quand même, il sort jamais un film sans qu'il se passe rien autour de ce film.
Et alors, on sait que si c'est Robert Guédiguian, il y a au moins 4 acteurs que l'on retrouve.
Tout à fait.
C'est Ariane Ascaride, son épouse.
Qui est son épouse.
Jean-Pierre Darroussin, qui est un de ses acteurs fétiches.
Tout à fait.
Ainsi que Gérard Meilland.
Tout à fait.
Et le 4e acteur que l'on retrouve dans la plupart des films de Guédiguian, c'est Marseille.
Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et oui, Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, t'as tout à fait. Gérard Meilland, c'est lui Daniel d'ailleurs, Gérard Meilland. Ce sont des acteurs inouïs, quoi, inouïs. On a Anaïs de Moustier, qui est formidable aussi. Anaïs de Moustier, depuis 3-4 ans, là, elle tourne beaucoup. Hein. Oui. Elle est vraiment en plein dans le... Elle est jeune.
Et en tout type, tout rôle, tout type de film.
Elle sait tout faire, elle, en plus, Anaïs de Moustier. Elle est très jeune, hein. Je sais même pas si elle a la trentaine. Et alors, elle a une très belle carrière, Anaïs de Moustier. En plus, elle est charmante, elle est jolie comme tout. On a Robinson Stévenin, aussi de la famille d'acteurs, les Stévenins.
Qui lui a commencé tout jeune, et il est toujours jeune, mais moins qu'avant.
Il a commencé enfant, oui, tout à fait. Oui, oui, Robinson, oui, oui. Mais on le reconnaît d'ailleurs. Dès qu'on le voit, il a toujours la même bouille. Petite bouille un peu ronde, comme ça. Mais c'est une famille de grands acteurs, la famille Stévenin. Ensuite, on a Grégoire Le Prince Ringuet. Pareil, lui, il fait une belle carrière. Hein. Et on a Lola Neymark aussi. Ce sont les acteurs dans des rôles, dans les grands rôles, là. Alors voilà, Robert Guédiguian, c'est ce qu'il dit, quoi. Il a toujours pensé que le cinéma devait nous émouvoir parfois par l'exemple, pour nous donner le monde tel qu'il pourrait être. Voilà ce qu'il dit. Parfois par le constat pour nous montrer le monde tel qu'il est, c'est-à-dire, pour faire court, dit-il, nous avons besoin de comédie et de tragédie à proportion égale pour continuer à nous questionner sur nos modes de vie. Et il faut plus que jamais, en ces temps bouleversés, continuer à nous questionner pour ne pas succomber à l'illusion que nos sociétés sont naturelles et qu'il y aurait là comme une fatalité. Tout ce qu'un siècle de lutte ouvrière avait réussi à faire entrer dans la conscience des hommes, en un mot la nécessité du partage, a volé en éclats en quelques années pour rétablir ce fléau mortel qu'est la volonté de chacun de posséder ce que les autres possèdent. C'est très beau ce qu'il nous dit là. Je l'ai écouté moi en interview, ce monsieur Robert Guédiguian, il est assez extraordinaire. Il est une sorte de philosophe, tout à fait moderne, tout à fait contemporain. Et Il a pas de violence verbale, hein. Il est pas agressif du tout. C'est quelqu'un qui, en tout cas, quand il est interviewé, qui reste très calme, qui dit les choses comme ça, avec un petit accent sympathique d'ailleurs, accent du Midi. Et voilà. Et il a toujours des choses très intéressantes à nous dire. C'est pour ça que je voulais noter ce qu'il avait dit justement par rapport au monde tel qu'il est actuellement et au cinéma par rapport à ce monde justement. Alors c'est sûr que voilà. Alors là, Ariane Ascaride justement a remporté la coupe Volpi de la meilleure actrice au Festival de Venise, justement, hein, pour ce film. Ben il a une famille de cinéma, ce que tu disais Damien. Voilà, c'est ça. On peut appeler ça une famille de cinéma. Sa femme, Jean-Pierre Darroussin, Naïs de Moustier, Gérard Mellan, voilà, Robinson Stévenin, enfin tous les noms que j'ai cités tout à l'heure, c'est sa famille.
Et Marseille,
bien sûr. Oui. Tu as raison, tout ça se passe toujours à Marseille. Effectivement. Et il nous rend, c'est marrant parce que on dit tellement de choses sur Marseille et aussi des choses désagréables. Hein. On entend des choses terribles sur Marseille. Et lui, il arrive à nous faire voir Marseille avec un autre regard. Bon, c'est pas du rêve, hein. On n'est pas à se dire que Marseille est une vie extraordinaire, tatata, féerique, etc. Non, c'est pas ça. Il nous fait voir cette métropole d'une autre façon, d'une façon plus humaine. Voilà, c'est-à-dire qu'il arrive à. Il rétablit l'équilibre, lui, entre ce que nous dit sur Marseille, tout ce qui est mauvais, et ce que nous dit Robert Guédiguian dans son cinéma.
Ça s'appelle Gloria Mundi et on écoute la bande-annonce.
Et c'est un gros coup de cœur.
Doucement les oreilles.
Tiens, chérie, ça porte bonheur.
Sur les poches, ça attire l'argent.
Gloria, ça vient d'où ? D'un film qu'on a vu à la télé.
C'est très joli. J'ai beaucoup réfléchi. Je pense qu'il faut lui dire qu'il est grand-père. Si tu le fais pas, tu le regretteras.
Tu as peut-être raison.
Je crois que ça va me faire plaisir de la voir, cette petite Gloria. Richard m'a dit qu'elle avait mes yeux.
Oui, c'est vrai. Ta fille a un grand-père, c'est normal qu'ils se connaissent, sans plus.
Il a tué des gens?
Non, il s'est défendu parce que sinon c'est lui qui y passait.
C'est du prénom, ça, Gloria. Et toi, tu travailles, Mathilda?
3 mois, je suis à l'essai. Puis après, je me ferai virer, comme d'hab.
Mais t'es libre?
Ah, je suis pas un taxi, monsieur.
Je suis comme vous, faut que je bouffe, bordel!
On va vous prendre la petite, comme ça vous aurez pas la nourrice à payer.
Vous pourriez faire un geste pour ta sœur, non ?
Pourquoi tu crois qu'on fait pas d'enfants, nous ? Parce qu'on veut réussir.
Pensez qu'à vous.
On n'a même pas de quoi se payer une nourrice, Nico. Voilà, on est des mois sur rien.
J'aime bien me promener avec elle. Je lui raconte de belles histoires, les histoires que je t'ai pas racontées.
Tu vas rentrer chez toi avec Nicolas. Hein ? Tu vas aller dîner en amoureux. Pas se laisser avoir par toute cette merde de notre époque.
Mais le plus important, c'est s'entraider. Puis si entre nous, on se tient pas les coudes, tout disparaît.
Pas vrai, Gloria ?
Gloria Mundi.
Oui, elle cherchait une nourrice, là. Louise, j'ai parlé de Louise, mais bon. Mais non, mais en fait, quand on écoute les bandes-annonces des films de Robert Guédiguian, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. On reconnaît absolument toutes les voix.
Oui.
Hein, Damien, t'as vu, on aurait pu les nommer à chaque fois. Et pourtant, ils ont dit une phrase de rien du tout, de 2-3 mots, et on reconnaît leur voix. C'est-à-dire que cette famille de cinéma, nous aussi, on la connaît. Nous, les spectateurs. On la connaît, cette famille, justement. Ça, c'est pas mal, puis c'est un casting extrêmement sympathique, et que des gens très doués, en plus. Hein. D'excellents acteurs, il est pas fou, Robert Guédiguian, quand même. Hein. Il sait choisir. Ah oui, faut Gloria Mundi, mes chéris, celui-là est vraiment à voir. Je vous assure vraiment, quoi. C'est aussi des coups de cœur, des coups de cœur, des coups de cœur. Et puis j'avais un policier. Ah oui, il y en a quand même un. Mais c'est policier, c'est comédie, c'est drame. Voilà, il y a un peu de tout. C'est américain. Ça s'appelle À couteau tiré. Alors couteau tiré. Alors c'est évidemment le titre est bon. On a une petite idée de ce qui peut se passer, mais bon, c'est l'histoire d'un célèbre auteur de polar qui s'appelle Harlan Trombay, qui est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété le soir de ses 85 ans. L'esprit affûté et la mine débonnaire, le détective Benoît Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d'élucider l'affaire. Mais entre la famille d'Harlan qui s'entre-déchire, et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d'une enquête mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes, où les rebondissements s'enchaînent à un rythme effréné jusqu'à la toute dernière minute. Ça dure 2h11, accrochez-vous, amenez vos pop-corn. C'est un film de Ryan Johnson, qui est un réalisateur, scénariste, producteur américain. Il a 45 ans, il a déjà eu 5 prix et 25 nominations. Yes, il a un casting d'enfer. Parce qu'il y a Daniel Craig dans le rôle, de, justement, du détective débonnaire Benoît Blanc. Alors, Daniel Craig, pour le resituer, c'est qui Daniel Craig? C'est
James Bond.
Yes! OSS 117.
Non. Agent 007 et pas OSS 117.
Ah oui,
c'est Jean Dujardin, OSS 117.
J'avais déjà fait l'erreur. Aïe, attends, je me donne un petit coup sur la tête pour que ça rentre bien. Ça y est, c'est fait. Mais oui, j'avais déjà fait cette erreur. Tu m'avais exactement rectifié de la même façon chez Jean Dujardin.
Bientôt, tu pourras parler de OSS 117. Normalement, le 3 ou 4 devrait sortir en 2020.
On en a parlé il n'y a pas longtemps, effectivement, oui. Et 007, vous savez ce que ça signifie, chérie, mes chéris, quand même. Vous le savez forcément. Bah, c'est permis de tuer. Si on lui enlève le 0, il ne peut plus tuer. Il n'a plus le droit de tuer. 007, c'est permis de tuer. Dieu merci, tout le monde ne l'a pas. Heureusement pour nous. Voilà, donc c'est Daniel Craig, dont voilà, qui est égal à lui-même. Hein. Il est excellent, c'est sûr. On a Chris Evans. On a Anna de Armas. Alors, Anna de Armas, c'est une actrice très connue, cubaine. Et voilà, elle est connue là-bas chez elle. On a Jamie Lee Curtis, ben on la connaît. C'est la célèbre fille des non-célèbres Janet Leigh et Tony Curtis. Quand même, des parents extraordinaires. Ben, Janet Leigh, pour la resituer, elle est dans Psychose. Et c'est elle qui est dans la baignoire et qui se fait assassiner. Avec la musique terrible. Voilà, donc c'était pour la resituer. Tony Curtis, bon, on connaît. Il y a Christopher Plummer aussi. Oui, Tony Curtis, tu voulais ?
C'est dans Amicalement Votre ?
Oui, c'est lui, Tony Curtis. Ben, ils ont été mariés pendant pas mal de temps et ils ont donné naissance à Jamie Lee Curtis, qui est une grande actrice. Et puis, on a, donc j'ai dit Christopher Plummer, oui, et on a Harlan Trombay aussi. Christopher Plummer joue le rôle d'Harlan Trombay, c'est-à-dire le grand écrivain qui est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété. Christopher Plummer, c'était, pour le situer, lui, c'était La Mélodie du Bonheur. Dans La Mélodie du Bonheur, qui repasse en ce moment, je crois, sur une chaîne, je ne sais plus trop laquelle, c'était lui, le fameux capitaine, le rôle principal, Christopher Plummer. Il avait 40 ans, là, je crois, dans ce film. Et là, maintenant, Christopher Plummer, c'est toujours un grand acteur qui a un certain âge maintenant et qui joue donc le rôle du vieux monsieur qui se fait tuer à couteau tiré. Bon, j'ai oublié de dire qu'il y a Toni Collette aussi, très connue, qui est une grande actrice aussi. Don Johnson, qu'on connaît également. Michael Shannon, quand on les voit, on les reconnaît parce qu'on les a déjà vus dans des films. On ne sait pas trop par rapport au nom, mais on les a déjà vus. Voilà. Mais il est très chouette, hein, franchement, quoi. À couteau tiré, si vous aimez les polars et les bienfaits avec de bons acteurs, allez voir À couteau tiré, mes chéris, c'est pour vous. Absolument. Voilà, donc j'avais mis de côté à ce moment-là un drame. C'est la guerre, c'est un film de guerre, drame, enfin c'est français. Ça s'appelle Sympathie pour le diable. Drôle de titre quand même. Hein. C'est de Guillaume de Fontenay. C'est un réalisateur scénariste canadien d'une cinquantaine d'années qui a déjà eu d'ailleurs des nominations. Là, son film Sympathie pour le diable a reçu le grand prix du public, le prix du jury jeune, meilleur acteur, etc., au Festival de Saint-Jean-de-Luz en 2019. Il a également le prix de la critique, le prix de la meilleure actrice, je vais vous donner les noms, le prix du meilleur acteur, au Waterloo Festival 2019. Bref, ce film est criblé de prix. Alors, ceux qui ont eu le prix de l'acteur et de l'actrice, c'est Nils Schneider, qui est un acteur franco-canadien, et Ella Rumpf, qui est une actrice franco-suisse. Ce sont les deux acteurs qui ont eu le prix. Il y a Vincent Rottier. Vincent Rottier, on le connaît. Il y a Clément Métayer également, qui est le fils d'Alex Métayer, et le frère d'Éric Métayer. C'est une famille d'acteurs et d'humoristes, Clément Métayer. Alors l'histoire, c'est quoi l'histoire ? C'est l'histoire. Ça se passe à Sarajevo. C'est en novembre 92, 7 mois après le début du siège. Le reporter de guerre Paul Marchand nous plonge dans les entrailles d'un conflit fratricide. Fratricide. Ah oui, parce que fratricide, non, mais fratricide, sous le regard impassible de la communauté internationale, entre son objectif journalistique, le sentiment d'impuissance et un certain sens du devoir face à l'horreur, il devra prendre parti. C'est ce qui peut arriver de pire, d'ailleurs, à mon avis, à un reporter, c'est d'être obligé de prendre parti, ce qu'ils évitent en principe. Eh oui, et ça, bon... Et là, il n'y a pas de... Alors, c'est titré « Un journaliste se doit d'être à l'endroit exact. » Il se doit également d'être là où on lui interdit d'être. Et c'est titré « À ne pas rater, puissant et poignant. » Là, c'est... D'ailleurs, Paul Marchand, là, c'était un reporter de guerre français né en 1961. Et en 92, il est l'un des premiers journalistes à arriver à Sarajevo comme freelance pour les journaux, radios et télé francophones d'Europe et du Canada. Il a connu deux des carnages qui ont marqué cette fin de siècle, le Liban et la Bosnie. Par ses actions et ses articles chocs, Paul Marchand a bousculé les conventions. Devenu journaliste un peu par hasard après ses études, il couvre durant 8 ans la guerre à Beyrouth, puis la guerre de Bosnie et le siège de Sarajevo pendant presque 2 ans. En côtoyant l'horreur humaine la plus totale, il a enfin l'impression de vivre et d'agir véritablement, d'agir et d'influencer un monde que l'indifférence calfeutre d'habitude. En 1994, il a obtenu le prix spécial du jury du prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre. En 2009, il se donne la mort par pendaison. Je crois qu'il a fini par ne plus supporter, quoi. Il y a eu un traumatisme terrible et il a pu supporter. Voilà, c'est pour ça que je voulais en parler. Je voulais parler de ce film. C'est Neil Schneider, là, j'ai donné son nom tout à l'heure, qui joue le rôle de Paul Marchand et qui a eu un prix, justement. Ça dure 1h40, Sympathie pour le diable.
Et on peut écouter la bande-annonce si on...
Oui, un film extraordinaire, mais en même temps très poignant.
Cela fait bientôt 7 mois que Sarajevo survit sous une pluie d'obus, sous l'œil impassible de la communauté internationale.
Paul Marchand à Sarajevo pour France Info.
Paul Marchand à Sarajevo pour Radio-Canada.
Paul Marchand à Sarajevo pour RTBF.
Ça va passer tôt ou tard, ne vous inquiétez pas.
Ne vous inquiétez pas,
vous savez très bien ce qui se passe.
Found a girl for you. Translator you asked for?
Francuzi nisu dobili rat već 100 godina, pa su došli da vide kako se to radi.
Tu lui as dit quoi?
Putain, ils sont juste en face de l'hôtel.
You got a story over there?
Yes, sir.
Aujourd'hui, des jeunes hommes, des femmes ont tenté de défendre un quartier du nord-ouest de Sarajevo. À bout de munitions, ils ont été massacrés par les soldats serbes. Encore un cri d'alarme qui restera silencieux pour la communauté internationale.
Non, je change rien, pas un mot, pas une virgule, rien.
You've just decided to play a new game with a very different set of rules. But we are here, brother. We are here.
Et quoi, ça te donne pas, toi, de te faire du fric sur le dos des morts?
Parce que la guerre te fait pas bosser, toi. T'es pas ici parce que t'aimes ça.
On n'est pas ici pour parler, on est ici pour parler d'eux, merde!
Sympathie pour le diable, donc, de Guillaume
oui.
de Fontenay.
Oui, c'est... Ouais.
Et c'est un sujet que l'on ne parle pas assez souvent, la guerre de Yougoslavie.
Et en fait, la grande majorité de l'équipe, ça, c'est quand même... était bosnienne, et c'est des gens qui ont vécu justement cette guerre, qui faisait partie de l'équipe, grande majorité. C'est quand même... En fait, Guillaume de Fontenay, le réalisateur, il avait rencontré le célèbre reporter Paul Marchand, justement. Il l'avait rencontré chez lui, dans la petite ville de Sens, située à 100 km du sud-est de Paris. Sens, hein, à peu près pour... Voilà.
Pas loin de Auxerre.
Ouais, il s'en souvient, il est venu me chercher à la gare, il nous dit, il avait la cigare, il avait un cigare aux lèvres, son bras et sa main rapiécés. On est parti chercher sa fille à l'école, puis on a discuté toute la nuit. Ça a été une rencontre très forte. Il est devenu un ami cher et c'est une des intelligences les plus vives que j'ai rencontrées. À la base, il nous dit, Guillaume de Fontenay, c'était un homme blessé. En 2008, quelques mois avant son suicide, il m'a dit en pleurant qu'il était fini, qu'il avait marché sur des terres contaminées et qu'il n'était plus apte à vivre. Des reporters de guerre m'ont dit que s'ils étaient sur le terrain, c'est parce qu'ils avaient des blessures à colmater. Être témoin de souffrances plus grandes leur permet dans une certaine mesure de prendre de la distance avec les leurs. C'est terrible. C'est terrible, c'est épouvantable, voilà. C'est Paul Marchand, une sorte de héros en fait. Un héros moderne qui ne se prenait pas pour un héros, qui n'a jamais pensé qu'il était un héros, et pourtant, c'est quelque chose comme ça. Voilà, ben mes chéris, si ça peut vous, si ça vous inspire un peu, si... J'ai dit que ça durait 1h40, je ne sais plus. Mm-hmm. Ça me scotche un peu, moi, ce genre de cinéma, j'avoue.
Eh bien voilà, on va arrêter là, du coup,
oui.
Pour les films de cette semaine. Merci beaucoup, Anne. Et on se retrouve mercredi prochain à 11h pour une nouvelle conversation autour du cinéma.
Mais oui, bien sûr. Mes chéris, passez une bonne semaine. Bah, écoutez, faites un choix de film, ce que vous voyez dans la presse, ce dont je vous parle éventuellement, c'est comme vous voyez. Si vous choisissez des cinémas à proximité, c'est super. Maintenant, vous allez où vous voulez, bien entendu. On ne vous en voudra pas. En tout cas, prenez soin de vous, faites attention, la pluie, le froid, c'est pas, c'est mélangé. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez surtout pas que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.
Beaux yeux, tu sais.